Nous allons prier si vous voulez bien. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette matinée, pour la manière dont tu nous traites. Et nous te rendons grâce aussi pour la patience que tu as envers nous. Et nous te demandons ce matin de nous parler, d'ouvrir nos cœurs et de nous aider à comprendre tes voies et comment marcher dans tes voies et non pas à contre-courant de ta volonté. Aide-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer donc notre série sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et nous arrivons à un passage un peu ingrat, c'est celui qui concerne Judas. Je vais lire le texte, donc c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, du verset 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Notre méditation de ce matin comprendra trois points. Premier point, ce que nous apprend, et c'est très riche, l'examen du contexte, du verset 1, 2 et 9, 10. Deuxième point, la fausse repentance, versets 3 à 5. Troisième point, l'absence de repentance, versets 6 à 8. Et la conclusion, la vraie repentance. Premier point, ce que nous apprend l'examen du contexte, versets 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Il semble que l'un des buts de Matthieu dans ce récit soit de faire ressortir l'innocence et la majesté de Jésus-Christ par contraste avec toutes les bassesses que les humains lui ont fait subir. Expliquons-nous. Le procès religieux de Jésus devant le Sanhédrin s'est donc, on l'avait vu, tenu dans l'illégalité la plus complète. Et en plus, rien du tout n'a pu être reproché à Jésus ni prouvé. Et donc son innocence a été rendue d'autant plus flagrante. On pourrait dire que son innocence et sa majesté ont été mises tout spécialement en relief, par contraste avec l'aspect sordide et crapuleux du jugement, des juges et des témoins. Ensuite, il y a le fait de livrer Jésus à Pilate, qui n'a rien changé du tout, puisque Pilate lui-même a déclaré Jésus innocent. Verset 24. Même s'il s'est mis en contradiction avec lui-même en livrant Jésus à la croix. Donc les bassesses des hommes n'ont eu pour résultat que de faire ressortir les perfections et la gloire de Christ. Et ensuite, Judas a accompli aussi ce même but. Lui aussi a déclaré Christ innocent devant les responsables juifs qu'il avait justement chargé de le livrer. Verset 4. Et enfin, les responsables juifs ont eux-mêmes reconnu, malgré eux, l'innocence de Christ, puisqu'ils ont donné ils ont nommé les 30 pièces ramenées par Judas le prix du sang. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les responsables religieux juifs savaient très bien que dans Deutéronome 27-25, il est écrit ceci: « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. » Et eux ont donné cet argent à Judas pour qu'il leur livre Jésus. Conclusion, tous ces gens ont cherché à humilier Christ autant qu'ils l'ont pu. Ils ont cherché à effacer toute trace de son existence et de son souvenir, mais par la providence de Dieu, c'est le résultat inverse qui a été obtenu. Premièrement, ce chant du sang est devenu comme un mémorial perpétuel à la mémoire du Sauveur. Deuxièmement, ce sont eux, les responsables religieux, qui se sont couverts de honte, qui ont été humiliés et qui se sont rendus méprisables alors que Christ s'est glorifié à travers toutes leurs manœuvres. Et cela n'a nullement empêché Jésus d'accomplir parfaitement son plan de salut, bien au contraire. Troisièmement, c'est que Matthieu souligne que les méchants ont bien malgré eux favorisé l'accomplissement des prophéties messianiques prophétisant le salut et le sauveur. Ça, c'est les versets 9 et 10. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Jérémie, autrefois, on désignait un petit prophète par le nom global du rouleau dans lequel il figurait. Donc, c'est plutôt Zacharie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on est estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Voilà en gros ce que le contexte nous dit à propos des événements, le contexte qui entoure les événements qui concernent Judas. Une dernière remarque là-dessus, ce n'est pas par hasard que Matthieu place l'un à la suite de l'autre le récit concernant la repentance de Pierre et le récit concernant la fausse repentance de Judas. C'est pour nous aider peut-être à distinguer entre les deux, ce que nous allons essayer de faire ce matin. Matthieu nous montre donc que Pierre, puisqu'on l'avait déjà vu, mais en résumé, Pierre a lui aussi donc traversé une situation spirituelle extrêmement catastrophique. Non seulement il a renié le Christ, mais pendant un moment, il a semblé s'obstiner dans ce péché. Et c'est jamais bon signe lorsqu'un pécheur s'obstine dans son péché. Et on aurait pu avoir, si on n'avait pas connu la fin du récit, l'impression que Pierre lui-même allait tout droit à l'apostasie et au reniement définitif de Christ, ce qui n'a pas été le cas, parce que contre toutes les apparences, Pierre s'est finalement repenti, et il s'est repenti sincèrement. Il a versé des larmes amères, nous dit le texte, sur son péché, au moment, peut-être, nous dit Luc, où il a croisé le regard d'amour de Christ sur lui. Et peut-être qu'il s'est souvenu, le texte dit qu'il s'est souvenu que Jésus lui avait annoncé son propre reniement, mais il s'est peut-être aussi souvenu que Christ lui a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Luc, verset 22, 31-32. Par contre, comme on va le voir ce matin, Judas a donné tous les signes extérieurs de la repentance. Il s'est repenti entre guillemets, nous allons voir ce que vaut cette traduction de second. Il s'est repenti, il a offert une réparation, il a reconnu publiquement, on peut dire, son péché, mais il n'a trouvé ni le pardon, ni le salut. Ceci nous amène donc à notre second point, la fausse repentance, versets 3 à 5 que je relis. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La voix des transgresseurs est rude, nous dit le livre des Proverbes, dans Proverbes 13-15. Et on le voit clairement ici avec Judas. Mais nous allons prendre les choses au début. Le texte dit au verset 3, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. » Pourquoi est-ce que Judas a eu cette attitude au moment précis où il est dit « voyant que Jésus était condamné » ? Imaginez un peu un gamin qui joue avec une allumette et tout d'un coup, il voit toute la maison qui a pris feu. Il va être épouvanté par les conséquences démesurées de son acte. Et Judas a dû éprouver un peu quelque chose dans ce genre. Il n'a peut-être jamais pensé que les conséquences de son acte iraient aussi loin. En livrant Jésus, il pensait probablement que Jésus s'en sortirait comme il s'en était toujours sorti jusqu'à présent. Mais le fait que Jésus est condamné change tout. Et c'est là que Judas se rend compte de l'énormité de ce qu'il a fait. Il est complètement dépassé par les conséquences de ce qu'il a fait. Et lorsqu'on se livre au péché, comme David, nous le disait l'autre fois avec l'exemple d'Hérode, on ne sait jamais jusqu'où le péché peut nous entraîner. On avait vu que Hérode, à cause de sa convoitise pour une jeune fille, a été amené, malgré lui, à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu faire et qui ressemble un peu au cas de Judas. Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Donc le dérapage de Judas, à cause de sa cupidité, est encore pire, puisque lui, c'est Christ qui l'a livré à la mort, qui l'a fait livrer à la mort. Et en voyant donc que maintenant Jésus est condamné, qui va être livré à la mort, Judas commence à envisager les conséquences catastrophiques que cela va avoir sur sa propre vie, sur sa réputation et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, sa réputation de traître qu'il a suivi pendant plus de 2000 ans maintenant, parce qu'en français, je ne sais pas en anglais, mais en français, quand on dit c'est un Judas, ça veut dire c'est un traître. Et je doute que depuis 2000 ans, un quelconque père de famille ou mère de famille ait donné pour nom à son fils Judas, ou même à son chien. Donc Judas réalise donc que sa réputation et sa vie est finie, il est foutu, comme on dit. Mais surtout, en plus de ça, et surtout, il a dû sentir un poids énorme de culpabilité au moment où il a vu les conséquences qu'ont eu sa trahison, qu'a eu sa trahison sur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il peut faire? Son désespoir et sa culpabilité vont le précipiter fiévreusement à opérer une espèce de bricolage sur le tas et essayer de réparer les dégâts un peu par lui-même. Donc c'est sur le plan horizontal et avec des moyens strictement humains qu'il essaie, et avec d'autres hommes, qu'il essaie de s'en sortir. Nous allons revenir sur ce point un peu plus loin. La première solution qu'il trouve à son problème, c'est de restituer l'argent qu'il a reçu, qu'il estime être une réparation. C'est biblique, mais Judas ne le fait pas pour des raisons bibliques. Il le fait tout simplement parce que cet argent, maintenant, lui brûle les mains, comme on dit, à cause de cette culpabilité qui est en lui. Il ne pourrait jamais dépenser cet argent à l'aise et en jouir. Il ne pourrait plus à cause de la culpabilité qui pèse sur lui. Ensuite, il va tenter de trouver une sorte de pardon auprès des responsables religieux juifs et il se confesse à eux en disant « j'ai péché ». Cette démarche a aussi une apparence biblique. Sauf que Judas n'a pas frappé à la bonne porte pour ça, pour obtenir le pardon des péchés. Nous y reviendrons aussi. Les chefs religieux lui répondent « Que nous importe, cela te regarde ». On peut se dire que voilà des bergers qui ont bien peu de soucis pour leurs troupeaux. Et aussi, on peut se dire, voilà la manière dont Satan récompense les pécheurs. Le livre des Proverbes nous dit, « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Satan travaille toujours de la même manière. Il séduit le pécheur, il lui promet le paradis, et lorsqu'il a réussi à pousser le pécheur au bord du gouffre, il lui donne un coup de pied pour le faire tomber dedans. Et malheureusement pour lui, Judas n'a pas pris la seule autre option qu'il aurait eue dans ce cas. Laquelle? C'est l'option biblique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller confesser sa faute aux instigateurs du crime, il aurait dû la confesser à celui qui en a été la victime, Jésus lui-même. Et là, il était sûr de frapper à la bonne porte, parce que le Sauveur ne l'aurait pas rejeté, puisqu'il est venu sur la terre tout spécialement pour sauver les pécheurs et leur pardonner, obtenir leur pardon. Mais le gros problème de Judas, c'est qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Et c'est justement ça, la fausse repentance, c'est rechercher donc le pardon sur un plan strictement humain, non auprès de Dieu et du Sauveur que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. De nombreux philosophes aujourd'hui encouragent les gens à cette sorte de démarche laïque. Et je vous en donne deux exemples. Le premier, c'est le Manifeste humaniste de 1933 et celui de 1973 qui déclare, en toutes lettres, je cite, « Il n'y a pas de Dieu pour nous sauver, nous devons nous sauver nous-mêmes. » Deuxième exemple, c'est le très médiatique philosophe français André Comte Sponville qui écrit des livres à succès. Et son but principal en écrivant ces livres, c'est de montrer, de démontrer que les hommes peuvent se passer de Dieu. Savez-vous quel est le sous-titre de son livre le plus vendu? C'est « Introduction à une spiritualité sans Dieu ». Est-ce que ça n'est pas condamner les gens à s'enfermer dans de fausses repentances? Certainement. La Bible définit la vraie repentance comme étant le fruit d'une relation avec Dieu, d'un retour à Dieu. Et Paul dit dans Actes 20, 20-21, « Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Voici enfin une petite remarque d'ordre exégétique qui confirme cette distinction entre la vraie et la fausse repentance. Le mot grec utilisé au verset 3 à propos de Judas, que Second traduit par « se repentit », ressemble au mot habituel pour repentance, mais ce n'est pas le mot habituel de la Bible pour repentance. Le mot habituel utilisé par le Nouveau Testament pour repentance est « métanoïa », qui désigne un changement d'état d'esprit du pécheur qui l'amène à se détourner de son péché pour revenir à Dieu. Alors que le verbe utilisé pour Judas vient du mot « metameleia » qui ressemble à « metanoia », mais qui a le sens uniquement d'un remords de nature émotionnelle et non de nature spirituelle. Il s'agit, comme dit Paul, d'une tristesse selon le monde. Paul dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit la vraie repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7,10. Si donc quelqu'un n'est pas chrétien et qu'il cherche le pardon de ses péchés, il aura tout intérêt à ne pas suivre l'exemple de Judas. Par contre, il sera sûr et certain de trouver la vraie repentance et le vrai pardon si, comme le fils prodigue, il fait la démarche suivante. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Quiconque se sent poussé à la repentance peut le faire et peut revenir au père, sachant que Christ a obtenu pour nous la réconciliation avec Dieu, le Père. Le troisième point, l'absence de repentance. C'est certainement la caractéristique principale des scribes, des pharisiens et des conducteurs religieux, plus généralement, que Dieu nous met ici en avant. Cette absence de repentance qui est un fruit naturel de la propre justice. Jésus dit, non pardon, Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Quel culot, on dirait, quel aplomb et quelle hypocrisie. Ce sont eux qui ont soudoyé Judas pour qu'il leur livre Jésus, et maintenant ils lui disent, que nous importe, cela te regarde. Ce sont eux les instigateurs du crime, et maintenant ils veulent le faire porter toute la culpabilité à Judas. C'est comme s'il disait, nous n'avons rien à voir dans cette affaire, c'est ton problème. La suite du texte nous dit, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Non seulement ces gens-là ne manifestent aucun signe de repentance, mais en plus, ils dissimulent leur culpabilité derrière le voile d'une bonne action, d'une action humanitaire, en quelque sorte. Verset 7, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Mais ils n'ont pas conscience d'une chose, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le champ du sang acheté avec l'argent du sang sera désormais un mémorial perpétuel pour l'humanité. Bien loin d'enterrer la mémoire de Christ. Nous arrivons à la conclusion. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Judas a été un cas unique dans l'histoire du salut de l'Église ou bien est-ce qu'on peut encore, à l'heure actuelle, trouver des gens qui sont comme lui, ont les mêmes motivations que lui dans l'Église, à savoir des gens qui cherchent à se servir de Christ et à se servir de l'Église pour promouvoir leurs propres intérêts ou satisfaire leurs propres convoitises ou ambitions. Voilà la question qui peut se poser à nous. Et je crains personnellement que malheureusement on doive répondre oui à cette question. Surtout quand on considère les scandales qui touchent ici et là l'Église, que ce soit pour des raisons d'argent, d'amour de l'argent ou autre sorte, forme de convoitise. Alors nous qui sommes croyants, nous devons être vigilants sur nos propres motivations et aussi vigilants sur le fait que même en tant que chrétien, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le chrétien est toujours susceptible de tomber un jour ou l'autre dans le péché, on ne sait pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Même pour des chrétiens authentiquement convertis. Et voici ce que, comme l'apôtre Pierre d'ailleurs, ce qu'on peut lire dans le chapitre 5, à l'alinéa 5 de la Confession de foi de Londres, de 1689. Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu souvent expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs, ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils en soient humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. La sagesse pour nous sera donc de prendre l'habitude de nous tourner régulièrement vers Dieu pour lui demander, comme David dans le psaume 139, pour demander à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Judas a été toute sa vie lié, enchaîné par sa propre convoitise, son addiction à l'argent, on pourrait dire. Aujourd'hui, il lui était impossible de s'en sortir tout seul, sans l'aide du Sauveur. Mais Judas a-t-il demandé son aide au Sauveur? Non. À aucun moment il n'a fait cette démarche pendant les 3 ans où il a été avec lui, où il a vu les miracles qu'il faisait, où il a entendu son message. À aucun moment il n'a fait cette démarche envers Jésus de lui dire « Seigneur, j'ai un gros problème dans mon rapport, dans ma relation avec l'argent. Délivre-moi de ma convoitise. Délivre-moi de cet esclavage. » Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Pensez-vous que Christ ne lui aurait pas répondu? Lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une mère entend le moindre soupir de son enfant malade dans la pièce à côté. Et nous pouvons être assurés d'une chose, c'est que Dieu entend le moindre soupir d'une âme qui est affligée par son péché et d'une âme qui pleure sur sa propre corruption. Prions. Éternel notre Dieu, tu connais notre faiblesse, tu sais que nous pouvons tomber et Seigneur, tu peux permettre que nous passions un temps dans une chute, dans un péché ou un autre. Et Seigneur, nous te demandons de nous préserver de cela. C'est la prière que tu nous as enseignée, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Mais Seigneur, nous te demandons que si quelqu'un parmi nous est en ce moment dans ce cas, nous te prions, Seigneur, si nous tombons nous-mêmes sous le coup de l'endurcissement du péché, alors nous te prions, Seigneur, selon ta parole, ne nous endurcis pas, mais fais-nous miséricorde. Et Seigneur, nous savons que tu entends ce genre de prière et que tu l'exauces si un pécheur te demande le pardon. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ et tu pardonnes à celui qui revient à toi dans la repentance, et tu nous montres dans ce texte ce qu'est la vraie repentance. C'est de mettre notre espérance uniquement en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te louons pour ce moyen que tu nous as donné pour être pardonné et pour entrer dans la vie éternelle. Accepte nos demandes, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Chanter le dernier chant.